Nous continuons, chers frères et sœurs ou chers amis de Radio Présence, à scruter quelle a été l'origine de la royauté en Israël et que Dieu a consenti à donner un roi. Et ce roi choisi par Dieu, ça a été Saül, fils de Kish, qui cherchait, envoyé par son père, des ânesses. Mais il va rencontrer l'homme de Dieu, le prophète Samuel. Et là, il va avoir la surprise de sa vie. La vénération de Saül et de son compagnon pour ce prophète qu'on appelle l'homme de Dieu semble bien intéresser pour que le voyant leur dise où sont les ânesses. Le voyant, cet homme au regard pénétrant qui fixe l'invisible et scrute la gloire de Dieu, est invité, et rien n'est négligeable, à regarder où sont les ânesses de Kish. Il ne faut pas rire trop vite, cependant, des soucis terre à terre confiés à Dieu et à ceux qui sont pleins de lui. Ils peuvent être l'occasion, ces soucis, d'une relation à Dieu plus étroite et en tout cas concrète et heureuse. À celui qui recherchait les ânesses de son père, Dieu donne le royaume d'Israël, rien que ça. Samuel avait appris du Seigneur, de Dieu lui-même, l'arrivée de Saül. Il devait lui donner, il avait la mission de lui donner l'onction royale et procurer ainsi à son peuple le chef qu'il demandait. Et tout ceci est présenté comme une initiative divine face à la misère des Israélites opprimés par leurs ennemis. La réaction du Seigneur est exactement celle qu'il a eue devant Moïse au moment où il décide de l'envoyer libérer les Hébreux de la main de Pharaon. « J'ai vu la misère de mon peuple et son cri est venu jusqu'à moi. » En recevant Saül, Samuel l'invite d'abord à venir avec lui pour la célébration d'un sacrifice de communion qui impliquait un repas sacré. Il l'assure qu'il lui expliquera tout ce qui occupe son cœur, littéralement, dans l'hébreu, tout ce qu'il y a dans ton cœur, consciemment ou pas. Et ce n'est qu'ensuite que le voyant fait allusion aux ânesses. Il n'y a plus à s'occuper d'elles, car on les a retrouvées. Qu'importe les ânesses, si Dieu destine Saül à régner, donc à posséder toute la richesse d'Israël. Le cœur de Saül, occupé des ânesses de son père, n'en demandait pas tant. Quand on va consulter un devin, il faut s'attendre à tout. Et le fils de Kish s'étonne de se voir promettre toute la richesse d'Israël et il s'offusque presque de la déclaration de Samuel et en disant « Pourquoi me dire de telles paroles ?» Un peu comme Marie à l'Annonciation. L'homme de Dieu va préciser peu à peu les intentions divines et lors du repas de communion qui suit le sacrifice, il fait placer Saül et son serviteur en tête des invités, c'est-à-dire au premier rang. Et le chercheur d'ânesses se voit décerner des morceaux de choix, le gigot et la queue. C'est comme ça, le gigot et la queue. Et ce sont encore des morceaux choisis aujourd'hui quand nous mangeons de la viande, je crois, au moins de certaines occasions. Quand on sait que dans les sacrifices de communion, la queue était réservée à Dieu, on mesure l'honneur fait à Saül, il est comme mis du côté de Dieu, ce qui n'a pu que l'impressionner vivement. La clé des paroles mystérieuses et des gestes insolites de Samuel est donnée le lendemain du sacrifice et du repas qui a suivi, lors du rite de l'onction. Au moment où Saül et son serviteur vont prendre congé de Samuel, celui-ci retient un instant Saül et, l'isolant, répand sur lui une fiole d'huile, l'embrasse et lui fait entendre la parole de Dieu. « N'est-ce pas le Seigneur qui t'a oint comme chef de son peuple Israël ? C'est toi qui jugeras le peuple du Seigneur et le délivreras de la main de ses ennemis d'alentour. » Le rite de l'investiture par l'onction était pratiqué parfois dans les peuples voisins d'Israël. Vous savez que, signe de santé, de richesse et de joie, l'huile est devenue, pour les Israélites, le symbole de la sainteté que Dieu répand sur les objets et sur les personnes qui veulent se consacrer, les prêtres spécialement. On n'en versera pas sur le corps d'un homme quelconque. Signe sacré de l'investiture des prêtres, l'huile est aussi, depuis l'onction de Saül, le symbole de la consécration royale. Et avant de désigner le roi d'Israël, le terme « Messie » de l'hébreu « Mashiach » qui veut dire « celui qui a reçu l'onction »,« loin », le verbe « Masha » voulait dire « oindre » et de « oindre » pour le prêtre consacré pour l'onction. Il faut noter au passage que le nom de Christ vient du grec « Christos » qui veut dire littéralement « celui qui a reçu l'onction du crème, chrisma ». Messie et Christ sont donc parfaitement synonymes, Messie d'après la langue hébraïque et Christ d'après la langue grecque. Vous voyez, quand on entend le Messie de Handel et quand on parle du Christ roi, c'est un petit peu le Christ roi, c'est quasiment un pléonasme et c'est intéressant de le noter. L'infidélité des rois d'Israël, puis leur disparition après l'exil à Babylone, quatre ou cinq siècles donc après l'avènement de Saül, et cette infidélité puis leur disparition suscite et avive l'attente du Messie avec un grand M. Le vrai roi qui a reçu l'onction. Et à partir du retour de l'exil, en l'absence de tout roi, c'est le grand prêtre qui va devenir loin, celui qui, dans certains cercles, tente à faire du messianisme sacerdotal un parallèle du messianisme royal, et lequel est de loin le plus attesté dans l'espérance du peuple de Dieu. Les deux courants de l'attente du Messie conflueront dans le Christ, à la fois roi et prêtre, le seul véritable roi comme le seul véritable prêtre.